en séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Personnages, personnalités, caractères, le meilleur et le pire. C'est le thème retenu en 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques. L'an dernier, l'Académie était placée sous la présidence de M. Emmanuel Leroy-Ladurie et le lundi 7 juillet, Mme Fanny Cossandet, maître de conférence à l'Université de Nantes, présentait une communication intitulée « Les reines de France ». Sur Radio-Canal Académie, nous rejoignons tout de suite la salle des séances pour écouter Mme Cossandet.
La question qu'on peut se poser en regardant l'historiographie actuelle, encore récente, c'est la question suivante, la reine de France existe-t-elle ? En effet, toute l'historiographie française, mais aussi anglo-saxonne, néglige très fortement ce personnage qui est considéré comme tout à fait secondaire en vertu de la loi salique. Alors, la loi salique est une règle dynastique qui est propre à la France et qui exclut les femmes de la succession au trône. Ceci a conduit longtemps les historiens à penser qu'elle était ainsi également écartée du pouvoir. Et pourtant, certaines reines ont bien exercé un pouvoir considérable, au point parfois d'éclipser dans la mémoire nationale les rois qui régnèrent sur elles. Alors, c'est à partir de cette contradiction entre des femmes considérées comme écartées du pouvoir d'un côté et des femmes qui cependant exercent une autorité considérable de l'autre, que je voudrais ici réexaminer le rôle et le statut de celle qui fut la première dame de France, une épouse de souverain, une mère de roi. Il convient pour cela de revenir sur les conditions d'affirmation de la loi salique, d'examiner le statut du personnage royal féminin et de s'arrêter aussi sur son rôle dans le fonctionnement de la monarchie française. La loi salique, c'est-à-dire la règle de dévolution statutaire du trône, est une invention assez récente. Ses origines ne remontent pas au-delà des crises successorales du début du XIVe siècle. En effet, en 1316, Louis X le Hutin, le fils aîné de Philippe le Bel, meurt sans héritier mâle, et c'est la première fois en France, depuis l'avènement du Capet en 987, qu'un roi décède sans laisser de fils. Alors toute la question est de savoir si on va laisser la couronne à sa fille, la petite Jeanne, qui est une jeune princesse de 4 ans, qui a l'avantage d'être en succession directe, comme ça s'est toujours fait, puisque les rois avaient un fils pour succéder, ou bien si on allait, au contraire, céder la couronne au frère de Louis X le Hutin, c'est-à-dire le second fils de Philippe le Bel, un garçon, ce qui s'est également toujours fait, puisque le roi avait un fils pour lui succéder. Alors, ligne directe ou bien préférence au mâle, finalement, c'est la préférence au mâle qui s'affirme, probablement pour des raisons de circonstances, essentiellement du fait de la jeunesse de la princesse Jeanne, incapable de défendre ses droits. Et voilà en 1316 le premier principe successoral qui est affirmé, les filles en France ne succèdent pas. La couronne passe ensuite de Philippe V à son frère Charles, Philippe V n'ayant que des fils, la couronne passe à son frère Charles IV, et Charles IV décède à son tour en ne laissant que des filles. Une seconde crise successorale s'ouvre en 1328, vous voyez les dates extrêmement rapprochées, et la question est de savoir si le trône passe au fils d'Isabelle de France, c'est-à-dire un petit-fils de Philippe le Bel en ligne directe, mais par les filles, ou bien, et qui est roi d'Angleterre, puisque c'est Édouard III d'Angleterre, ou bien est-ce que le trône doit passer à un neveu de Philippe le Bel, par les mâles donc, mais en ligne indirecte. Et c'est finalement parce que le successeur direct est un roi anglais, Édouard III, qu'on le rejette et qu'on préfère élire Philippe VI. En 1328, le second principe successoral selon lequel les filles ne transmettent pas leurs droits au trône est ainsi affirmé. Vous voyez donc les deux principes, les filles ne succèdent pas, les filles ne transmettent pas leurs droits au trône. Pour autant, ça ne signifie pas qu'elles sont totalement écartées du pouvoir. Et au XIVe siècle, à aucun moment, un argument d'incapacité féminine à exercer le pouvoir n'est invoquée. Ceci d'autant plus que c'est un contexte où il y a une très très forte présence féminine aux plus hautes sphères du pouvoir. On retrouve par exemple Mao d'Artois qui couronne Philippe V. On retrouve la duchesse de Bourgogne qui défend un temps les droits de Jeanne de France. On retrouve dans les royaumes chrétiens énormément de femmes qui ont le droit de succéder. Et donc il est difficile de mettre en avant une incapacité féminine. Ça n'est d'ailleurs pas la question, il s'agit seulement de clarifier les règles successorales. Alors, en fait, paradoxalement, l'exhérédation totale des femmes de la succession au trône de France va permettre une meilleure intégration et, finalement, leur accession au pouvoir lorsqu'une incapacité royale donne lieu à une régence. En effet, du fait qu'elle soit exclues de la succession, les femmes ne représentent aucun danger d'usurpation, contrairement aux princes du sang. Et donc, elles sont les mieux placées pour gouverner en nom et place du roi, lorsque celui-ci en est incapable. La position privilégiée des femmes dans la régence s'impose en deux étapes. Une première étape avec l'ordonnance de 1374, qui est une ordonnance qui institue la majorité des rois à l'âge de 14 ans. Et dans cette même ordonnance, donc qui donne une limite chronologique temporaire à la régence, puisque le pouvoir est remis au roi à ses 14 ans, cette même ordonnance organise la régence en confiant l'exercice du gouvernement aux princes et aux grands dignitaires du royaume et l'éducation du jeune prince à la mère, celle qui est naturellement dévouée aux intérêts de son fils. Cette organisation est remise partiellement en cause par l'ordonnance de 1407, l'ordonnance de Charles VI, celui qu'on dit le roi fou. À cette occasion, Charles VI affirme le principe de l'instantanéité de la succession, c'est-à-dire le principe selon lequel un roi immédiatement mort au roi mort succède immédiatement son héritier. Il n'y a donc plus d'interrègne possible, mais ce qui est important dans cette ordonnance, c'est que, du même coup, le roi, quel que soit son âge, incarne la souveraineté. Il incarne le pouvoir et on l'exerce en son nom. Dès lors, ceux qui tiennent l'éducation du roi, finalement, tiennent aussi d'une certaine façon, au pouvoir. Et c'est pourquoi Charles VI organise une régence collégiale avec les princes du sang, les grands dignitaires et les femmes qui se retrouvent, donc bien souvent les mères du prince, qui se retrouvent ainsi réunies dans le gouvernement et l'éducation du prince. Alors, vous voyez que par l'ordonnance de 1407, c'est une régence collégiale du pouvoir qui est organisée. Un exercice collégial, pardon, de la régence qui est organisé. Mais, vous le savez probablement mieux que moi, l'exercice collégial du pouvoir s'avère extrêmement difficile. Et finalement, la régence va se concentrer progressivement dans les mains de la reine. De la reine qui a ce double avantage d'être la mère du roi et l'épouse du roi, c'est-à-dire une personne royale. Alors, cette position d'exception, la reine la doit à son mariage. Et ceci est très important car seul en France, le mariage fait la reine. Si vous prenez Louise de Savoie, par exemple, la mère de François Ier, elle a été régente à plusieurs reprises, mais elle n'a jamais été reine de France. Seule l'épouse royale est reine de France. Pour ce qui est du choix d'une princesse, l'opération est assez délicate. Longtemps, les rois ont recherché des héritières à l'intérieur du royaume afin d'agrandir l'héritage capétien. Et puis, au début du XVIe siècle, la source se tarit. Anne de Bretagne est la dernière duchesse à apporter en dot un territoire au domaine. Et à partir de ce moment-là, les rois se tournent vers l'extérieur et recherchent des princesses étrangères. La préférence est portée à l'aînée des filles d'une famille régnante. L'aînée des filles est toujours la plus prestigieuse, d'ailleurs elle est le plus souvent la mieux dotée, parce qu'elle est mieux placée que ses cadettes dans l'ordre de succession. Et là, vous avez une exception française qui est que les filles ne succèdent pas, donc la France ne peut pas risquer de voir une de ses filles transférer le territoire à l'étranger, mais à l'inverse, pratiquement tous les royaumes qui entourent tous les royaumes européens acceptent ou les filles à la succession, ou au moins la transmission des droits par les filles. Et donc les rois de France, en épousant des princesses étrangères, peuvent toujours espérer capter un héritage, c'est-à-dire obtenir une couronne. Et ça a été bien le cas, en fait, lorsque les Bourbons ont mis un prince sur le trône d'Espagne en 1700, en vertu des droits de... Donc c'est Philippe V d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV, qui monte sur le trône en vertu des droits de Marie-Thérèse d'Espagne. Donc, préférer une aînée aux cadettes, ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que les princes étrangers ne sont pas toujours prêts à céder leur fille aînée, et on voit très bien à partir de là la position de la France, lorsqu'elle est en position de faiblesse, comme sous les guerres de religion, où Charles IX demande à obtenir l'aîné des princesses Habsbourg, qui est finalement attribué au roi d'Espagne, on ne lui cède que la cadette, Élisabeth, donc à une période où la France n'est pas très brillante sur l'échiquier européen, à l'inverse au XVIIe siècle, où au contraire la France s'impose, on voit très bien que Louis XIII, comme Louis XIV, n'ont strictement aucun mal à obtenir chaque fois l'aîné des infantes espagnoles. Au-delà de cette préférence à l'aîné, en fait, d'une façon générale, on peut dégager trois règles dans les choix des princesses. Les prendre en maison souveraine, préférer donc les aînés aux cadettes, et les prendre en maison étrangère. En somme, les rois de France n'épousent pas des bergères. Ça, Henri IV en a fait l'amère expérience lorsqu'il avait signé un certain nombre de promesse de renonciation à ses deux maîtresses, si chacune d'elles lui donnait un fils, successivement la première, Gabrielle d'Estrée meurt en couche, et puis ensuite il renouvelle sa promesse envers Henriette d'Entragues, une promesse de mariage qu'il ne peut en fait honorer, simplement parce qu'à ce moment-là, il est marié avec Marguerite de Valois, et ni le pape ni Marguerite de Valois n'acceptent l'annulation du mariage pour une si médiocre alliance. Et c'est seulement lorsque les négociations avec Marie de Médicis sont engagées que Marguerite, et bien entendu le pape, dont il est l'oncle, acceptent la renonciation. Alors, donc, trois critères qui président à ce choix, mais d'autres impératifs peuvent apparaître, notamment la nécessité de donner un héritier rapide au roi. C'est le cas avec Louis XV, lorsqu'il épouse Marie Leczinska. C'est une petite princesse polonaise, fille d'un roi de Pologne déchu, donc l'alliance n'est pas extrêmement brillante, c'est une princesse étrangère de maison souveraine, c'est une aînée, ça correspond aux règles, mais enfin, il renonce à l'infante d'Espagne pour cette alliance-là, parce que Marie Leczinska a l'âge de donner des enfants à Louis XV, et parce qu'elle est issue d'une famille extrêmement nombreuse, ce qui est plutôt un bon présage. D'ailleurs, le calcul s'avère finalement bon. Alors, pour autant, si on peut parler d'exogamie géographique, elle s'avère bien souvent une endogamie sociale. Si on prend le cas extrême de Louis XIV, Louis XIV épouse sa cousine, qui est doublement sa cousine par son père et par sa mère, puisque Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, est la fille de Philippe IV d'Espagne, lequel est le frère d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, et elle est par ailleurs la fille d'Élisabeth de France, c'est-à-dire la sœur de Louis XIII. Donc vous voyez, en fait, le frère et la sœur se sont mariés en 1715 et ont eu en même temps l'un une fille, les uns une fille, les autres un fils. Double mariage donc, double cousinage, qui fait que cette origine étrangère doit être relativisée. Sitôt mariée, la princesse contracte le rang et la dignité de son royal époux. L'union matrimoniale étant avant tout un sacrement chrétien, il fait de deux êtres une seule chair et la communication des honneurs est instantanée. La reine contracte immédiatement le rang et la dignité de son royal époux. Elle a dès lors le devoir de représenter la grandeur de son nouvel état. La maison qui lui est accordée témoigne de cette position d'exception. Outre les appartements fastueux, la reine se voit dotée d'une maison extrêmement importante avec plusieurs centaines de serviteurs, Catherine de Médicis, Marie de Médicis aussi d'ailleurs, et Anne d'Autriche qui ont parmi les plus belles maisons de la période moderne, compte plus de 650 serviteurs à leur service. La reine donc apparaît comme la première dame du royaume, mais, et ça c'est important, elle est aussi la première des sujettes. En effet, la reine en France est souveraine et sujette en vertu de la loi salique. La loi salique, de fait, place la reine aux côtés et en dessous du roi. Parce que les règles successorales interdisent aux femmes de régner par elles-mêmes, la reine ne peut disposer de disposer de tous les attributs de la souveraineté, mais elle ne peut pas exercer le pouvoir souverain en son nom propre. Les cérémonies monarchiques se font l'écho de cette situation. Et le sacre en est une très claire illustration. La reine est seule avec le roi, à être sacrée et couronnée. Il y a donc une distinction bien claire entre les personnes royales, sacrées et couronnées, et l'ensemble des sujets. Pour autant, la cérémonie du sacre n'est pas exactement la même dans le cas du roi et celle de la reine. Dans la mesure où le sacre est une intronisation religieuse et politique, il est nécessaire à l'apogée des honneurs de souligner les limites de la position d'exception de la reine. Alors, pour la reine, le rituel se déroule sur le même modèle que pour le roi. Elle reçoit l'onction, ensuite elle se voit confier les regalia, c'est-à-dire le sceptre, la main de justice et l'anneau. Ensuite elle est couronnée, intronisée et enfin une messe clôt la cérémonie. Ce sont dans les détails du rituel que se marque la différence. L'épouse royale est sacrée à Saint-Denis, tandis que le roi l'est toujours à Reims, à l'exception d'Henri IV, parce que Reims, à ce moment-là, est aux mains des ligueurs. La reine, à la fin du XVe, en 1594, la reine ne reçoit que 3 onctions, tandis que le roi en reçoit 9. Et surtout, le roi bénéficie du crème de la Sainte Ampoule, tandis que la reine n'est sacrée qu'avec une huile sanctifiée. Ce qui minimise bien entendu la portée du sacre. De la même façon, les regalia reçus révèlent le statut de la reine. La reine reçoit la main de justice, qui est le symbole de la fonction royale, et elle est à ce moment-là identique pour la reine et le roi. Mais par contre, le sceptre, qui est le bâton de commandement, la manifestation de l'exercice de l'autorité, le sceptre pour la reine est plus petit et d'une autre forme. Elle n'a qu'une image du pouvoir, elle ne peut en avoir l'exercice. Quant à l'anneau, qui est le symbole du mariage mystique du roi et du royaume, il est également remis à la reine qui, en ayant épousé le roi, en fait épouse également le royaume et elle est de ce fait étroitement liée à la monarchie. Alors, la reine est ensuite, après avoir reçu les régalia, elle est intronisée, et couronnée, puis intronisée. Et là encore, la reine n'a pas la couronne de Charlemagne, mais celle dite de Jeanne d'Évreux. Et surtout, la participation des pères, des 12 pères, 6 pères laïcs et 6 pères ecclésiastiques au sacre des rois, n'a pas lieu pour les reines qui est couronnée, puis placée sur le trône, par des barons qui sont de grands féodaux, mais qui n'ont pas la dignité des pairs de France, pour montrer que la reine reste dans la dépendance du roi. Sacrée, couronnée, introduisée, de la sorte parfaitement intégrée à la monarchie, la souveraine participe enfin à la messe qui célèbre l'événement comme le roi l'a fait avant elle. Elle communie, elle fait les offrandes et elle reçoit le baiser de paix strictement à l'identique. La cérémonie qui clôt, le rituel qui clôt la cérémonie, en fait, montre que la reine est bien intégrée à la couronne. Dès lors, la reine incarne pleinement la souveraineté qu'elle représente en tant que personne royale et son rôle se manifeste notamment dans les entrées royales. En général, après le sacre, juste après, bien que le sacre des reines disparaisse dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais juste après le sacre, se fait l'entrée royale à Paris, et après l'entrée royale à Paris, on a une reproduction de ces cérémonies dans d'autres villes du royaume. Lorsque la reine se présente dans la capitale, à ce moment-là, elle est revêtue de tous les attributs de la souveraineté et les sujets lui rendent hommage, lui reconnaissent cette dignité. Ce qui est intéressant dans l'entrée royale, c'est la thématique qui est développée à cette occasion pour recevoir la reine. Toutes les rues qu'elle parcourt, en fait, accompagnée des grands dignitaires du royaume, toutes les rues qu'elle parcourt sont décorées avec des arcs de triomphe, avec des scénettes, avec des tapisseries, etc. Et les rues sont aux couleurs de la reine, mais surtout, ils représentent les thèmes qui sont traditionnellement traités par les sujets. Et on a là une image, en fait, de la souveraine, telle que les sujets l'aperçoivent. Deux thèmes apparaissent régulièrement, celui de la paix. La reine est un émissaire de paix et la reine est une figure de la maternité. La paix, d'une part parce que c'est un personnage de paix extérieure, puisque le mariage souvent se conclut soit à l'occasion d'un traité de paix, comme c'est le cas par exemple avec Éléonore d'Autriche en 1530, la deuxième épouse de François Ier, ou bien surtout comme c'est le cas avec Marie-Thérèse et Louis XIV, dont le mariage est conclu à l'occasion de la paix des Pyrénées en 1650. Mais paix extérieure, donc, parfois, et surtout paix intérieure, par l'espérance d'un dauphin qui assure la stabilité politique. C'est ainsi une figure maternelle et protectrice qui s'impose au sujet, jouant avec le roi un rôle de complémentarité. Si le monarque se présente comme un personnage d'extérieur, de guerre, de gouvernement, la reine, à l'inverse, apparaît comme un personnage d'intérieur, consacré à l'espace domestique et familial, tout aussi nécessaire à la stabilité du royaume. Dès lors, vous voyez une reine qui, compagne du roi, dotée de tous les attributs de la souveraineté, partageant la dignité royale qui en fait un être. Cette reine peut, à l'occasion, se substituer au roi, quelquefois en recevant les ambassadeurs, mais surtout, le plus souvent, en remplaçant son époux, victime d'une incapacité temporaire. Alors, on le voit très bien, par exemple, lorsqu'Anne d'Autriche se rend à La Rochelle, après la prise de La Rochelle, Louis XIII est malade, il est incapable de se rendre dans la ville et donc d'imposer sa volonté. Il y envoie Anne d'Autriche qui incarne la souveraineté et qui peut, dès lors, affirmer la toute-puissance royale dans cette ville qui fut autrefois rebelle. Pour autant, il convient de relativiser le rôle politique de la reine régnante qui n'intervient toujours dans les affaires politiques que lorsque le roi le lui permet et sur ordre du roi. Elle est bien, de ce point de vue-là, sous l'autorité du roi. En tant qu'épouse, son rôle est dans l'ensemble assez effacé. La mission essentielle qu'on lui confie est de donner un dauphin à la France. Dans la mesure où en France, selon la célèbre formule de Saint-Simon, les rois ne peuvent faire de prince du sang qu'avec la reine est absolument nécessaire. Et tous les rois de France ont été mariés pour assurer la continuité. La maternité de la reine est donc absolument indispensable et il est vrai que si le mariage est en principe indissoluble, une reine stérile est toujours fragilisée. On voit bien par les dissolutions de mariage, celui de Louis XII avec Jeanne de France, au début, à la fin, à l'extrême fin, en 1499, à l'extrême fin du XVe siècle. On le voit encore avec la dissolution du mariage d'Henri IV avec Marguerite de France. Les reines qui tardent à être mères sont également menacées. C'est le cas de Catherine de Médicis, qui met près de 10 ans à avoir un premier enfant et qui, pendant 10 ans, ne doit sa situation à la cour de France qu'à la protection de François Ier, Henri II étant prêt à la renvoyer en Italie. C'est la même situation qui se passe pour Anne d'Autriche, qui se voit très fragilisée, d'autant qu'au bout de 20 ans de mariage, elle n'a toujours pas d'enfant, et qui de plus est accusée d'être à la solde des Espagnols, de n'avoir jamais été totalement française, de ne s'être jamais intégrée, et la preuve en est, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, une situation fragile, des arguments à double tranchant, et finalement, l'arrivée d'un dauphin in extremis en 1638, l'arrivée de Louis XIV, après plus de 20 ans de mariage, après 23 ans de mariage, et alors que la reine a déjà atteint les 38 ans, bouleverse complètement sa situation et là, de reine fragile, fragilisée, menacée en permanence, elle devient une princesse comblée, d'autant plus que Louis XIII est assez malade et que donc les courtisans se tournent vers elle, espérant bien que vienne rapidement une régence. Alors, épouse et mère de roi, la reine est une composante essentielle du fonctionnement monarchique. Elle assure la continuité dynastique, comme elle assure aussi finalement la stabilité politique lorsqu'elle exerce la régence en nom et place du roi. À cette occasion, la reine met en œuvre tous les acquis de sa souveraineté. Alors, il existe deux sortes de régence. Une régence pour absence, soit parce que le roi est malade, ou parce qu'il part à la guerre, ou encore parce qu'il a une déficience mentale, comme ce fut le cas pour Charles VI. Soit des régences pour minorité, c'est-à-dire que le roi n'a pas l'âge de gouverner par lui-même. C'est dans ce deuxième cas, de régence pour minorité, que la reine détient, bien entendu, le plus de pouvoir. Parce que, à ce moment-là, lors des régences pour minorité, la reine est veuve, et donc dégagée de la tutelle maritale, et mère du roi régnant, ce qui lui permet d'exercer sur son fils l'autorité maternelle. À l'époque moderne, les femmes ont systématiquement exercé la régence, à une exception que tout le monde connaît, qui est celle du régent, mais pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, il n'y a plus de femmes à la cour capables d'exercer le gouvernement. Il n'y a ni mère de roi, ni reine, ou même princesse, fille de France. Si cette situation doit beaucoup à la loi salique, elle résulte aussi des événements et des manœuvres politiques que les acteurs ont menées tout au long des trois siècles. Il convient donc d'inscrire la régence féminine dans le temps long. Après l'ordonnance de 1407, donc, qui organise une régence collégiale, la France traverse une très très longue période sans minorité royale. Et il faut attendre l'avènement de Charles VIII en 1483 pour qu'à nouveau un roi monte sur les trônes sans avoir l'âge de gouverner seul. À cette occasion, Louis XI, le père de Charles VIII, avait prévu une potentielle régence et avait confié le gouvernement, l'éducation du roi à Anne de Beaujeu, la sœur aînée de Charles VIII, la fille aînée de Louis XII. Anne de Beaujeu s'occupe donc du roi, et qui dit s'occuper du roi dit aussi s'occuper du gouvernement, et c'est ainsi que, après l'organisation collégiale de 1407, en fait, les femmes s'installent doucement dans le pouvoir. Une seconde étape est franchie et elle est importante lorsque Louis XII, se sentant très malade, organise une régence avec. Il n'a pas d'héritier à ce moment-là, l'héritier c'est François d'Angoulême, et donc une régence avec d'un côté la reine, Anne de Bretagne, et de l'autre côté la mère de l'héritier, la mère de François, Louise de Savoie. Vous voyez comment là, dans cette organisation, on trouve la reine et la mère qui sont réunies dans une régence collégiale. Alors, pour le bonheur de la France, cette régence n'a pas eu lieu parce qu'il semblerait que les deux femmes s'entendaient extrêmement mal et ça aurait probablement été explosif. Louis XIII se rétablit et l'affaire en reste là. Louis XII, pardon, se rétablit et l'affaire en reste là, sauf que, malgré tout, il a créé un précédent en réunissant la reine et la mère, qui fait que, aux régences suivantes pour minorité, la reine mère se trouve idéalement dotée des caractéristiques nécessaires à l'exercice de la régence. Et à partir de là, les reines-mères obtiennent systématiquement le pouvoir en cas de minorité royale. Que ce soit Catherine de Médicis, que ce soit Marie de Médicis ou Anne d'Autriche, elles sont chaque fois, elles se voient chaque fois attribuer le pouvoir. C'est ainsi que les reines-mères s'installent définitivement dans la régence, au point d'incarner ce mode de gouvernement, ce qui n'est pas sans poser de problème à Philippe d'Orléans, car Philippe d'Orléans, lorsqu'il arrive à la régence en 1715, on lui reproche finalement de gouverner comme une reine-mère. Il répond, je gouverne comme on a toujours gouverné jusque-là en période de régence. Oui, lui dit-on, mais vous êtes un prince du sang, et donc vous avez des intérêts personnels dans le gouvernement. Et là, vous voyez les limites institutionnelles de cette situation où finalement, Philippe d'Orléans avait raison de répondre qu'il gouvernait comme ça se faisait traditionnellement, mais en même temps, où les courtisans avaient aussi raison de se méfier d'un pouvoir fortement concentré dans la main d'un prince qui est successeur potentiel. Alors, pour autant, si les reines-mères se sont solidement installées dans la régence, il faut bien voir que ce ne fut jamais sans l'économie de coups de force politiques, comme d'ailleurs tout ce qui concerne, sous l'Ancien Régime, l'exercice du pouvoir. À chaque fois, il a fallu aux reines-mères qu'elles se débarrassent des rivaux, qu'elles combattent l'idée d'une régence collective inscrite dans l'ordonnance de 1407 et régulièrement rappelée, et qu'elle s'impose comme seule maîtresse, en quelque sorte, du pouvoir. Dès que se profile une minorité royale, les princes du sang réclament leur participation au pouvoir au titre de leur droit à la succession au trône. Et l'autorité des reines-mères ne manque pas d'être contestée. Dès lors, les reines mobilisent, et c'est là où on voit que s'articulent au jeu institutionnel, en fait, les manœuvres politiques nécessaires, les reines mobilisent toutes les armes à leur disposition afin de circonscrire les princes, d'asseoir leur légitimité sur la volonté royale, donc de se débrouiller pour faire dire ce que quelquefois les rois n'ont pas dit, c'est-à-dire qu'ils la désignent à la régence, et au besoin de modifier le rôle attribué aux institutions. Alors, la première étape nécessaire pour que la reine s'installe dans le pouvoir, c'est de s'affirmer la légitimité, l'accord du roi. Elle le fait de deux façons. D'une part, lorsqu'il y a testament royaux, c'est le cas pour Louis XIII en 1643, c'est le cas pour Louis XIV en 1715, dans les deux cas, il y a eu des testaments royaux, où le roi désignait la reine-mère et les princes du sang, car on est toujours dans un contexte de régence collégiale. La reine, le roi les désignait et la reine s'appuie sur ses testaments pour dire « voilà, j'ai été désignée », sans trop insister. Par ailleurs, là où elle joue sur les institutions, c'est qu'elle fait venir le petit roi au Parlement et elle fait déclarer au roi, alors Louis XIII, il a 9 ans, il est relativement grand, Charles IX, c'est le cas aussi, il a 9 ans lorsque Catherine de Médicis l'amène pour se faire confirmer dans le gouvernement, Louis XIV, il a 4 ans, c'est déjà plus facile à manœuvrer. Dans tous les cas, donc, la reine amène le petit roi au Parlement, lequel tient son lit de justice et déclare à cette occasion qu'il confie le pouvoir à sa mère. Légitimité du roi, donc, confirmée en quelque sorte par les institutions. Pour autant, il s'agit aussi de circonscrire les princes du sang, qui derrière revendiquent leur participation au pouvoir. Et là, c'est un jeu de vitesse qui s'institue. À chaque fois, que ce soit Catherine de Médicis, Marie de Médicis ou Anne d'Autriche, à chaque fois, elle coupe court aux velléités des princes. Catherine de Médicis joue sur le fait qu'Antoine de Bourbon, le père du futur Henri IV, Antoine de Bourbon est dans une situation difficile en 1560 parce que son frère, le duc de Guise, est emprisonné pour crime de lèse-majesté. Alors, pour éviter que le frère soit exécuté, que lui-même d'ailleurs soit entraîné dans la chute, il accepte, Antoine de Bourbon accepte de céder la régence à Catherine de Médicis, en échange de quoi elle le nomme lieutenant général du royaume. C'est un titre magnifique qui est assez creux finalement, puisque toutes les décisions du lieutenant général du royaume doivent être ratifiées par la régence, ce qui limite évidemment son autonomie d'action. Alors, Catherine de Médicis profite de cette situation. Marie de Médicis joue de vitesse parce qu'à ce moment-là, le premier prince du sang est en Italie et elle se fait déclarer régente par le Parlement aux côtés de Louis XIII avant que le premier prince du sang ne soit revenu d'Italie. Et lorsqu'il arrive en France à la cour, il est mis devant le fait accompli et doit s'abstenir. Mais pour autant, c'est ce qui explique aussi toutes les agitations des périodes de régence. Et puis Anne d'Autriche négocie très tôt, dès les débuts de la maladie de Louis XIII, elle négocie avec Gaston pour le nommer lieutenant général du royaume, en échange de quoi elle lui laisse la régence et finalement s'accaparer la totalité du pouvoir. Donc négociation, vous le voyez, légitimité aussi de par le statut de la reine, de par sa position de mère et de par la nomination du jeune roi. Dès lors, les reines-mères jouent toujours sur une double caution, une caution par le père, par la volonté du roi défunt à travers les testaments, et par le fils régnant, qui se prononce pour ces reines. Elles doivent cependant, pour assurer leur position, gouverner sans prendre de décision, c'est toute la difficulté de l'exercice, gouverner sans prendre de décision qui modifie profondément la situation du royaume. C'est-à-dire qu'on lui confie comme pouvoir de gérer les affaires courantes, en quelque sorte, et de restituer au jeune roi le royaume dans l'état où le roi précédent l'avait laissé à sa mort. Espèce de trait d'union, la reine doit assurer la transmission du pouvoir du royaume sans elle-même s'impliquer profondément. Bien entendu, quand les régences durent extrêmement longtemps, quand en plus la France est engagée dans des guerres profondes, comme ce fut le cas avec Catherine de Médicis, un petit peu Marie de Médicis, et surtout Anne d'Autriche, puisque là on est en pleine guerre de 30 ans, il est évident que la reine fait beaucoup plus, et ceci lui vaut bien souvent une forte condamnation des participants. Alors, d'une façon générale, les régences ne sont pas des périodes de grande stabilité politique. Si la reine a le devoir de remettre au jeune roi un royaume dans l'état où son prédécesseur l'a laissé, elle doit cependant aussi faire face à des difficultés qui contribuent largement à l'effondrement des finances royales. Et pour s'assurer le pouvoir, elles doivent en particulier acheter des fidélités en puisant dans les caisses de l'État, d'où le reproche majeur qui est fait à la régente de dilapider le trésor. Voilà, vous avez là un exemple de la faiblesse des reines qui tient précisément en ce qu'elles sont légitimes dans le gouvernement des affaires par leur dignité et leur maternité, mais contestables à la tête de l'État en leur qualité de femmes, qui les rend incapables d'exercer en leur nom propre la puissance souveraine. La contradiction intrinsèque du personnage royal féminin, à la fois investi de la dignité royale et placé en suggestion, se retrouve très clairement dans la régence. L'effacement de l'épouse royale au XVIIe siècle n'échappe pas à ce paradoxe. La reine disparaît de la littérature politique et perd le bénéfice des grandes cérémonies monarchiques précisément au moment où elle exerce avec le plus de constance l'autorité dans les périodes de minorité. L'évolution monarchique vers un système absolutiste qui consiste à mettre en avant le monarque seul conduit à renvoyer la reine dans l'ombre de la représentation du pouvoir. Le XVIIIe siècle confirme cette tendance déjà nettement marquée par Louis XIV. cautionnait un rôle domestique, les reines ne sont plus guère présentes sur la scène politique. Les velléités de Marie-Antoinette à y retrouver un rôle lui valurent, de ce point de vue, l'opprobre général. Je vous remercie de votre attention.
C'était Madame Fanny Cossandé, maître de conférence à l'Université de Nantes, qui s'exprimait devant l'Académie des sciences morales et politiques le 7 juillet 2003 sur le thème « Les reines de France ».